Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en ce début de semaine qui sent l'hiver ici à Paris autour de notre studio. Au menu du jour, les adieux d'un pachyderme, comme on dit, d'un pachyderme à son public, l'ex-capitaine et déjà retraité Serédié, retraité international, a remercié les supporters des éléphants à Abidjan ce week-end, juste avant la rencontre Côte d'Ivoire-Niger. Un match remporté d'ailleurs par les Ivoiriens. Dans l'ensemble, pas de surprise d'ailleurs pour cette journée de qualification pour la CAN 2021. Les gros l'ont emporté et nous allons y venir. Les Bleus attendus à l'Euro, l'équipe de France s'est facilement qualifiée mais sans impressionner par son jeu, automatiquement placée parmi les favoris. Quel champion du monde verra-t-on donc dans la compétition ? Les champions d'Europe défendront, eux, leur couronne. Les Portugais se sont aussi qualifiés et Cristiano Ronaldo a encore été à la fête avec son 99e but sous les couleurs du Portugal. Enfin, les tenants du titre seront là et des débutants, il y en a toujours à chaque compétition. Et bien ceux-là sont encore des Vikings. Ont-ils un clapping aussi? Eh bien, je vous laisse la surprise pour le déroulé de cette émission. Bonjour Karine Galli.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aux côtés de Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis Patrick Juillard, notre ami de foot.
365 Afrique.
Allez, c'est mieux que vous le disiez.
Ça va revenir. Bonjour Annie, bonjour à
ça
tous.
Ça reviendra, le mécanisme. Bonjour Patrick. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Annie, vous êtes bien l'animatrice de Radio Foot.
Il me semble.
C'est ça.
Hein, c'est moi.
C'est vous la dame.
Radio Foot, je suis la dame et je suis là. Bonjour à tous, c'est parti.
Je vous remercie pour toutes vos prières. J'étais à Bobo parce que vous m'avez vu grandir. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je remercie toute la Côte d'Ivoire entière. Et que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas trop parler, mais merci infiniment pour tout. Merci beaucoup.
C'est un garçon qui, en tout cas, qui a apporté beaucoup au groupe. Et ça s'est vu dans ses prestations, dans son investissement.
C'est un grand frère. Je suis content de l'avoir avec moi parce que je sais que si un jour je déconne ou je fais un truc, je sais qu'il sera là, il sera toujours là pour me dire ce que je dois faire.
Il est dû sur le terrain, même aux entraînements. Il est sérieux, il est dû, il est rigoureux. Il nous crie dessus. Mais après ça, il nous parle gentil, tranquille. Il nous donne beaucoup de conseils. Comme je l'ai dit, c'était comme un papa pour nous.
Nous, les jeunes, quand on le voit sur le terrain, qui se bat, qui court des kilomètres, malgré son âge. Donc quand tu es jeune, tu te dis mais... Serédié sur le terrain, c'est un gars qui rigole pas, il veut tout le temps gagner. C'est-à-dire quand tu vas au combat avec lui, tu ne peux pas regretter parce que lui donne tout.
On le gardera toujours dans notre cœur parce qu'il nous a beaucoup appris ici en sélection. Il mettait l'ambiance et là où il y avait le sérieux, il mettait du sérieux.
C'est une personne très très sympa, il taquine tout le monde, il rit avec tout le monde. Il ne se dit pas qu'il est supérieur à qui que ce soit. C'est un vieux père hors du terrain, sur le terrain, il est magnifique.
Le stade Oufouette-Boigny d'Abidjan était plein samedi. Les 35 000 places en tribune occupées, non seulement pour assister à la rencontre Côte d'Ivoire-Niger, mais aussi pour cette très belle levée de rideau. Le revoir à Serédié, le capitaine, lors de la dernière CAN en Égypte. Alors, il avait annoncé sa retraite internationale le 13 septembre. Là, il accompagnait ses camarades qui, eux aussi, lui ont rendu hommage. Vous venez de l'entendre. Et on est en direct avec lui. Bonjour, Serédié.
Bonjour, bonjour à tout le monde là-bas.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Radio Foot. Vous avez entendu le petit résumé?
Oui, merci. Oui, oui. C'est ce matin même que j'ai visionné la vidéo que vous venez de passer.
Oui.
Et c'est quelque chose qui me va vraiment droit au cœur. Ça me fait plaisir de savoir que mes jeunes frères retiennent ça de moi. Ça
oui.
Me fait vraiment plaisir.
C'est un petit film, et finalement, évidemment, en hommage que la Fédération ivoirienne a fait en votre hommage. Donc, capitaine Serédié, on peut peut-être encore le dire, je le signale, 47 sélections, 2 buts,
oui.
Dont évidemment cette Coupe d'Afrique. Oui. D'abord une chose, ces jeunes-là qu'on a entendus, ils soulignent sans cesse votre âge. Vous avez 35 ans, oui. On peut le dire. C'est quand même pas oui. Un âge canonique, mais c'est, oui. On a l'impression que c'est ce qui retient. Ça vous embête pas?
Non, ça ne m'embête pas du tout. Ils insistent là-dessus parce que vous savez ce que c'est que le droit d'aînesse en Afrique. Et comme il y en a un qui l'a signifié tout à l'heure, je me mets tout le temps à leur niveau. Dans le sens où il y a des jeux que normalement je dois pas faire avec eux, mais pour les mettre à l'aise, quand ils arrivent, j'essaie de me mettre à leur niveau, je rigole, je me mets un peu, voilà, je les mets dans l'ambiance. Donc du coup, quand ils parlent de l'âge, c'est juste signifier que à la base, on n'est pas de la même génération.
Bah
donc
oui.
Quand il y a un qui dit qu'il me voit courir malgré mon âge, tout ça et tout, c'est pour juste voilà. Marquer le pas, c'est tout, c'est pour, je sais pas, accentuer, au fait, voilà, comment je suis avec eux, c'est un peu ça.
Oui, c'est souvent hein, le rôle qui est celui d'un capitaine. On va vous poser quelques questions, mais je vais prendre la première, la parole. Serédié, vous qui donc faites vos adieux, vous étiez en sélection depuis 2013, vous étiez donc l'aventure de 2015 quand la Côte d'Ivoire remporte cette CAN. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir sous les couleurs de la Côte d'Ivoire ou est-ce que vous en auriez un autre?
Non, c'est le meilleur souvenir, c'est clair. C'est le meilleur souvenir, mais je ne vais pas aussi oublier mon premier match, qui était aussi au stade Félix Houphouët-Boigny, parce que c'était quelque chose de magnifique. C'était un rêve qui s'est réalisé. Mais maintenant, remporter la CAN après tant d'années d'attente, ça fait vraiment chaud au cœur d'écrire l'histoire aussi de son pays. Donc, c'est quelque chose de fort.
Et oui, vous faisiez partie de ce groupe des éléphants. Olivier Pron.
Ouais.
Salut Geoffrey, ça va bien?
Salut Olivier, je vais bien et vous?
Et quelle image on garde de vous à l'extérieur? Vous êtes plutôt quelqu'un de calme, de posé. Moi, je me souviens avoir pris notamment une fois l'avion avec vous. On avait discuté à l'aéroport. Sur un terrain, j'aimerais pas être face à vous parce que vous êtes un guerrier, un aboyeur formidable de volonté. Et c'est vraiment l'image qu'on garde de cette CAN et de vous. Alors, maintenant que vous raccrochez avec l'équipe nationale, on garde quel est le vrai Serédié? Le guerrier sur le terrain ou l'homme tout calme et beaucoup plus posé en dehors?
J'ai deux visages, c'est ça le problème au fait. Quand j'ai envie de jouer, je joue, je m'amuse, mais quand c'est le boulot ou quand il s'agit de quelque chose de plus sérieux, voilà, je m'y mets parce que je sais pas faire semblant. Et donc cette question là, la réponse que je peux vous donner, c'est que vous pouvez garder deux images de Serédié, quelqu'un qui aime la vie, qui aime donner la joie de vivre. Voilà, j'aime faire rigoler les gens, j'aime faire le clown, mais quand il s'agit de bosser, je suis là, je suis sérieux.
Gilles Verdez.
Oui, bonjour. J'ai une question pour prolonger celle d'Olivier, justement, à propos de votre tempérament. Un caractère de guerrier, un caractère aussi impulsif, avec notamment en début de carrière quelques expulsions. Ouais. Voilà, c'était un peu parfois compliqué.
C'est clair.
Est-ce que vous pensez que ce caractère impulsif, finalement, là maintenant, ça a été un atout? Ou est-ce que peut-être, notamment, pas totalement au niveau de la sélection, mais au niveau de la carrière en club aussi, est-ce que parfois ça vous a empêché de franchir un palier?
Je pense que c'est un couteau à double tranchant, dans le sens où ce caractère-là fait que j'ai pas envie de perdre, et ça fait que je me surpasse. Mais en même temps, je donne souvent des conseils à mes coéquipiers ou à mes jeunes frères. Même dans mon club où je suis en ce moment, il y a des jeunes qui m'approchent pour me demander des conseils. Je leur dis souvent, voilà, il faut faire la part des choses. Maintenant, là, présentement, je peux vous dire qu'il y a des gestes que je regrette. Voilà, il y a des agressions physiques aussi que je regrette. Mais maintenant, je vais pas cracher dessus parce que voilà, c'est ce qui m'a valu ce que je suis aujourd'hui. Mais si je devais donner un conseil à un jeune frère, je lui dirais de baisser un peu le tempérament. C'est un peu ça.
Patrick Juillard.
Oui, bonjour Geoffrey, félicitations pour votre carrière.
Vous
venez de dire à Gilles Verdez quelque chose dont personne ne doutait, à savoir que vous êtes un gagneur. Est-ce que le dernier match des éléphants à la CAN en Égypte avec cette élimination au tir au but et qui fut assez douloureuse pour vous puisque vous avez manqué votre tentative, est-ce que ça vous laisse pas quand même un goût amer pour la fin de votre aventure internationale?
Forcément, parce que j'aurais voulu quand même finir un peu sur le podium. Et puis, de toute façon, quand j'étais là-bas, j'avais en tête d'arrêter après, même si les dirigeants, mes coéquipiers, ma famille essayaient de me dissuader de ça. Mais voilà, fini sur cette note-là, c'est quelque chose qui est pas beau. Mais comme je le disais tantôt, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui décide. Donc, je finis comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et ce qui me réconforte un peu, c'est que ce soit moi qui rate le pénalty, parce que si c'était un de mes jeunes frères, ça allait plus me hanter, parce que voilà, j'allais beaucoup y penser, parce que je sais comment les Ivoiriens allaient le prendre et tout. Donc, du coup, c'est un goût amer, mais en même temps, voilà, je me dis quoi? Je me dis c'est la volonté de Dieu, et puis voilà, c'est mieux d'arrêter comme ça.
Bon, belle belle parole, Sérédier, hein, parce que c'est pas simple, effectivement. On souffrait tous aussi pour vous et pour.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil.
Une dernière question, Sérédier, avant de vous le libérer. Votre carrière européenne, finalement, parce que vous avez commencé très tard dans le football et un petit peu par hasard, hein, où vous étiez, je le dis aux auditeurs et vous me corrigez si c'est faux, mais vous étiez étudiant en Tunisie. On vous repère, vous jouez un peu en Tunisie, et puis tout de suite, ça va être une aventure en Algérie, hein, avec le SC Tif. Vous aviez 23 ans.
Aujourd'hui, je vais éclaircir. Oui. Aujourd'hui, je vais éclaircir sur
dites-moi.
Ce côté-là. Je n'ai jamais été étudiant en Tunisie. J'explique que j'étais footballeur. Je suis arrivé en Tunisie et mon club est tombé en deuxième division. Mm-hmm. Et après cela, j'ai résilié mon contrat. Donc, j'étais livré maintenant à moi-même, parce que je dormais dans un endroit où les joueurs qui étaient sans club dormaient. Donc c'était voilà, c'était une vie difficile qui commençait. Je veux pas rentrer dans d'autres détails et tout, mais j'ai jamais été étudiant ni jardinier, mais quand même j'avoue que j'étais obligé de faire pas mal de choses pour survivre, parce que c'était vraiment difficile.
D'accord. Voilà. Donc des débuts difficiles, ensuite l'Algérie qui vous sert de tremplin, et vous partez en Europe. Là, vous étiez en Suisse au FC Sion, et là vous êtes toujours en Suisse.
Mais il est suisse maintenant, moitié ivoirien, moitié suisse. Vous y jouez depuis 11 ans.
On peut le dire.
Avec un passage en Bundesliga.
Avec un passage en Bundesliga, je te garde. Mais sinon, vous êtes suisse depuis 11 ans en tout cas.
Ouais, on peut le dire, mes enfants, aujourd'hui, voilà.
C'est parce que vous aimez le chocolat, Sérédier, ou les montagnes?
J'aime, mais j'ai pas droit, je mange pas beaucoup le chocolat, parce que voilà, par rapport à la ligne. Sinon, comme vous avez dit, bon, j'ai commencé tard, surtout en équipe nationale. J'ai pas eu la chance de vite commencer, parce que voilà, il fallait que je signe à Bâle, fallait que je joue l'Europa League pour que le coach d'alors, Monsieur Sabri Lamouchi, me découvre et puis qui me donne ma chance que j'ai, grâce à Dieu, saisi. Mais bon, comme tout bon chrétien, je me dis c'était le plan que Dieu avait tracé pour moi. Donc ici, je profite pour lui dire merci, que la gloire lui revienne, et puis je suis vraiment content, parce que ma mère, je pense qu'elle est fière de moi, c'est le plus important pour moi. Le reste, voilà, ça va venir.
Alors, c'était la retraite internationale, là, et votre retraite tout court de footballeur, vous savez quand vous la prendrez, ou là, vous rejoignez votre club de Araou et...
Ouais. Là, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, parce que j'aime le foot, j'adore le foot, donc je serai là, je vais continuer à jouer. Là, j'ai des agents qui m'appellent pour me faire des propositions. En tout cas, tant que Dieu me donnera la force de courir comme je peux, je vais essayer de jouer jusqu'à ce que, voilà, je n'arrive plus à bouger le doigt, en tout cas.
Et quand vous passez par Paris, vous venez nous voir cette fois, plus au téléphone, alors?
Mais avec plaisir. Eh ben... Merci beaucoup, en tout cas, vous êtes sympa.
On vous attend dans notre studio, alors, Sérédier. Merci beaucoup. Merci d'avoir
Dieu
été en direct dans
merci.
Radio Foot. Merci, à très bientôt.
Ciao.
Au revoir. Voilà cet hommage. Alors, Olivier, c'était un hommage qui précédait un match remporté par les éléphants assez logiquement.
Oh bah oui, 1-0 contre le Niger. Le Niger avec un nouvel entraîneur. Enfin, on ne sait pas bien s'il sera le sélectionneur, parce que pour l'instant, le ministère des Sports au Niger n'a pas encore donné son accord. On sait que c'est sans doute pour une histoire de salaire et de valider
de
la somme qui sera allouée à Jean-Ki Boilem. Et de la durée du contrat. Alors, au Niger, ça peut être 3 mois comme ça peut être 3 ans. Mais ça c'est très fluctuant, et ce sera en fonction des résultats. On ne peut pas reprocher à Jean-Ki Boilem de commencer par une défaite à Abidjan, des tas d'autres équipes perdent là-bas.
Surtout vu les circonstances... de la défaite et vu le déroulé du match, parce que disons-le, on peut dire un petit mot.
Allons-y. Oui.
Il y a eu un penalty en première période obtenu par Nicolas Pépé avec une sorte de psychodrame. Gradel qui arrache le ballon des mains de Pépé qui voulait tirer le penalty, qui le rate. Gradel le rate. Et en deuxième période, la Côte d'Ivoire obtient un deuxième penalty inexistant. Enfin, si un arbitre peut nous expliquer pourquoi il a sifflé, je suis preneur de l'explication. Et c'est Caissier cette fois qui transforme, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas très très réjouissant à regarder.
Il va falloir attendre un peu. Le prochain match, ce sera en Éthiopie, ce sera demain, et le Niger accueillera Madagascar qui a gagné son premier match face à l'Éthiopie. Donc pour le Niger, ce serait bien de commencer à prendre des points s'ils veulent se mêler
absolument
à la lutte jusqu'au bout.
De toute façon, la Côte d'Ivoire, peut-être, Gilles, c'est une équipe qui, depuis la dernière CAN, hein, et même celle d'avant, se cherche encore un peu. Elle a perdu ses grands leaders, et on pense à Didier Drogba, Yaya Touré, à tous ceux qui ont fait cette équipe, notamment en 2015 aussi.
Et puis on rappelle plus Gervinho, grands... donc c'est un leader aussi qui a perdu.
En plus.
Mais lui, je crois qu'il aimerait bien revenir.
Ouais.
Mais justement, vous en parliez
elle
de
se cherche.
Ces... Oui, elle se cherche, elle est en reconstruction. Et vous parliez de ces leaders emblématiques du passé, d'un passé très récent, hein, Drogba, Yaya Touré. Je voudrais simplement noter, c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est juste pour rétablir quelques vérités footballistiques et aussi avec un virage politique, que ces grands leaders-là, Yaya Touré, Drogba, ils n'ont pas eu le droit, eux, hélas, à l'hommage qui a été rendu là à Sérédier, ils n'ont pas eu le droit à la gratuité entière du stade. Et à mon avis, c'est quand même pas un hasard. C'est au moment où Drogba se présente à la présidence de la fédération, menace les dirigeants en place, qui vacillent, il faut le dire, de leur piédestal. Et c'est à ce moment-là qu'on rend un hommage à un joueur, peut-être pour s'attirer les sympathies du public. Voilà. J'aurais aimé que cet hommage-là, magnifique, soit rendu à d'autres joueurs avant. Mais peut-être que là, il n'y avait pas d'intérêt politique, donc on n'a pas fait cet hommage.
Et Drogba, d'ailleurs, il appelle les anciens à le rejoindre. Il appelle tous les anciens à venir se grouper autour de lui, parce qu'il y a une vraie division, là encore, dans ce secteur-là. Mais il appelle tout le monde. Et donc, vous avez sans doute raison.
Même si
cet hommage n'est sans doute pas anodin.
Oui, non, mais Sérédier mérite cet hommage.
Oui,
oui.
Ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est effectivement une forme de reconnaissance à géométrie variable selon les moments et selon les besoins... politique du moment de la Fédé, donc c'est ce qui est effectivement un peu discutable.
C'est une vraie perte pour l'unité du groupe, Sérédier, on lui a dit, et c'est vrai, un aboyeur comme celui-là, c'est quelqu'un avec qui vous allez à la guerre, au combat, tous les jours.
Oui,
tous
et
les
puis jeunes, même au-delà de, effectivement, des qualités mentales, c'est même un très bon footballeur, il n'est pas certain que la relève soit au niveau, et dans l'expérience et dans l'implication. Et
on lui a pas dit, rappelons-le.
Non, mais certes, mais il y a beaucoup de choix qui posent question. Les choix de Camara posent question. Bon, là, Jean-Michel Seri a été écarté. Alors, il n'avait pas fait une bonne CAN, mais c'est son positionnement. Il avait été placé en numéro 10 derrière les attaquants, alors que ça n'est pas son poste.
Il fait pas non plus un très bon début de saison à Galatasaray.
Non, certes. Lemina l'éclipse un peu à Galatasaray. Et Max-Alain Gradel, qui est un très bon joueur, mais en sélection, ça fait un moment que ses performances sont plus au niveau où elles étaient. Il y a d'autres joueurs qui sont pas appelés. Il y a Jérémy Boga qui joue en Italie à Sassuolo qui est pas appelé. Gervinho qui n'est pas rappelé alors que lui, il aimerait bien revenir. Donc, la gestion du groupe pose quelques questions. Quoi.
Olivier, on se disait que durant ces premiers matchs de tournoi de qualification pour la CAN 2021, en gros, les grosses équipes l'avaient emporté. Mais il y a eu deux équipes qui ont joué en début d'après-midi. On a les résultats.
En gros, même ceux qui avaient perdu en quelque sorte des points lors de la première journée se sont refait la cerise, si vous me permettez l'expression, dans la deuxième. Ça s'est rééquilibré. Bon, on rappelle que les deux premiers de chaque groupe vont aller à la CAN. Voilà, normalement,
avec 24,
aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de très grosses surprises, mais décidément, ça ne va pas bien pour l'Égypte, qui ne se remet toujours pas de son échec cinglant à la CAN chez lui, qui avait été un véritable séisme, puisqu'on se souvient que dans la nuit qui avait suivi l'élimination, le président de la fédération avait démissionné, l'entraîneur était parti, tout le staff.
Et
toute la fédé, puisqu'on nous a même expliqué qu'à cause de ça, on n'avait pas pu voter pour Mohamed Salah pour les élections The Best et compagnie. Enfin bref, ça sert d'excuse à tout. Est-ce que ça servira d'excuse au fait qu'ils aient fait nul chez eux contre le Kenya? Ça devait être jeudi soir. Et là, ils viennent de refaire un nul, les Égyptiens.
Un but marqué en deux matchs.
Un but marqué. Ils ont fait 1-1 avec le Kenya.
Et là, et je là, suis en train 0-0. De
rechercher. 0-0. 0-0,
0-0 oui. À Moroni, aux îles Comores.
Attention, qui ont gagné au Togo et qui sont sans doute l'équipe qui va être à suivre dans ce
groupe. Absolument. Un peu comme Madagascar.
Lors de
la précédente campagne. Alors, j'ai regardé un petit peu la première mi-temps. Il faut pas enlever de mérite. C'est pas une contre-performance de l'Égypte. C'est aussi une performance des Comores.
Bien sûr.
Et presque une contre-performance qu'ils auraient pu gagner.
Ils ont réussi à tenir le ballon la plupart du temps en première mi-temps, à se créer les meilleures occasions. Donc ça, il faut le souligner, un travail de fond fait par Amir Abdou qui était parmi nous la semaine dernière.
Oui, jeudi soir,
au téléphone. Bon, c'est un vrai travail qu'il fait là, avec beaucoup de joueurs binationaux notamment. Mais l'Égypte,
beaucoup de Marseillais.
Oui, absolument. Mais l'Égypte, c'est très inquiétant parce qu'il y a un problème de formation en Égypte.
Sans ça là,
il n'y a pas beaucoup de relève. Le groupe tourne un peu en rond et c'est assez inquiétant. Oui, sans ça là, peut-être que ça aurait changé quelque chose.
Peut-être. Mais il était là à la CAN, rappelons-le.
C'est vrai que là, il y a le contre-exemple par rapport à ce que je vais dire de l'Égypte. Mais sinon, il en va aujourd'hui de la CAN comme de l'Euro. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des sélections drastiques pour qu'il y ait le moins d'équipes possible en phase finale. L'Euro, au début, c'était 4 équipes, etc. Et maintenant, aujourd'hui, avec les groupes tels qu'ils sont faits, tous les gros sont en rendez-vous, et en Europe et en Afrique.
Et vous qualifiez une équipe sur deux.
Exactement. Donc le but, c'est qu'en phase finale, pour des raisons évidemment économiques, dont on peut débattre, mais qui sont sans doute louables sur ce plan-là, eh bien tout le monde soit là. Donc on a des groupes où effectivement...
On a une chance sur deux de passer.
Exactement.
Quoi.
Et les groupes sont faits de telle manière que les gros sont quand même très protégés. Donc et en Europe et en Afrique, il restera peut-être à la fin une ou deux équipes qui n'y seront pas. Mais c'est tout. Sinon, tout le monde y va maintenant. Voilà.
Un petit œil quand même sur le Maroc.
Alors juste de dire que le Ghana
Le Sénégal, ce sont les deux seuls à avoir fait le plein de points pour le moment, puisque tout le monde n'a pas encore joué les deux journées. C'est dommage. Les
Sénégalais ont le Ghana qui avait battu l'Afrique du Sud chez lui, ça c'est un bon résultat vu les prestations qu'avaient fait les Sud-Africains à la CAN.
Petitement tout à l'heure face à Sao Tomé sur un pénalty de Jordan Ayou en première période, mais c'est vrai que dans tous les groupes, puisque tout à l'heure c'était ça l'accroche, Annie, le Maroc va aider l'Ilodzi, qu'il a encore du boulot parce que le 0-0 inaugural, on se souvient en conférence de presse, il avait annoncé le minimum, c'est 6 points en 2 matchs pour débuter. Ils ont été accrochés par les Mauritaniens chez eux, 0-0. Et donc demain, ils vont jouer les Marocains contre la Centrafrique. Et ce serait bien qu'ils prennent 3 points.
Ça va être difficile. C'est difficile de jouer contre la Centrafrique.
Les Centrafricains ont battu les Burundais en ouverture.
Donc c'est pas évident. Ça va pas être simple. Il y a un manque de grinta et d'envie, d'efficacité dans cette équipe qui est terrible. Contre la Mauritanie, c'est 21 tirs. 6 tirs cadrés, 0 but.
Ouais, mais il l'a souligné, je suis pas sûr que ça ait fait très plaisir à ses attaquants. Qu'il a rappelé lui-même qu'il avait été attaquant, qu'il avait jamais vu des attaquants rater autant.
Je crois que son problème a failli dans la communication, c'est ça qu'il ne cesse de rappeler
quand
qu'il a été,
que ses autres sont des brèves. Il avait ça comme problème. Embêtant.
C'est embêtant et c'est embêtant.
Mais si c'est vrai, t'évites de le dire. En tout cas, tu ne dis pas.
Je suis d'accord.
Aux médias.
Après, il y a aussi un travail de détection et de choix qui doit être fait par le. Il vient d'arriver, d'accord, mais je pense qu'il va devoir un petit peu remettre en cause le groupe parce que. Reprendre toujours les mêmes joueurs et leur reprocher de refaire les mêmes erreurs qu'ils faisaient 6 mois avant qu'ils prennent les commandes. S'ils faisaient déjà ces erreurs-là, c'est qu'il y a quelques raisons, sans doute.
Bon, en tout cas, on y reviendra à ces éliminatoires.
Ça se termine demain soir pour les deux premières journées.
Exactement. Donc, on y reviendra, mercredi, logiquement, dans Radio Foot International. En attendant, on va aller vers l'Europe et vers nos Bleus parce que là, ça commence à se décanter sérieusement pour ce qui est des qualifiés à l'Euro 2020.
Premier poteau et c'est au fond grâce au premier but en bleu de Corentin Tolisso, le joueur du Bayern Munich, et les Bleus mènent 1-0 assez rapidement dans cette rencontre avec Léo Dubois qui reprend ce ballon deux fois. Il ne peut pas frapper parce qu'il s'est excentré, alors il va centrer pour Antoine Griezmann, le voilà passeur décisif Dubois, et le voilà le but attendu d'Antoine Griezmann, et les Bleus après une petite demi-heure de jeu mènent 2-0 ce soir à Tirana.
C'est une fierté personnelle, mais je suis surtout fier de voir ce qu'ils font ensemble avec cet état d'esprit-là. Voilà, l'état d'esprit est là et la qualité aussi.
Tout s'est donc joué en première mi-temps pour un match qui ne restera pas dans les mémoires, hein, Karine.
Oui.
Pas beaucoup plus que celui contre la Moldavie, mais l'essentiel, n'est-ce pas, est fait. Les Bleus sont qualifiés pour le prochain Euro et ils terminent premier de leur groupe sur une victoire en Albanie, donc, et avec une innovation tactique à Tirana. Les joueurs, en tout cas, étaient heureux. Écoutons Léo Dubois au micro de notre envoyé spécial à Tirana, Antoine Grenier.
On est tous contents, on avait aussi à cœur de donner une victoire pour la centième du coach. Donc voilà, le contrat est rempli, c'est bien. Je pense qu'on a des joueurs aussi pour pouvoir évoluer dans ce système. Donc très bien, on savait qu'on allait aussi s'opposer à une équipe qui allait jouer avec trois défenseurs aussi. Donc voilà, c'était à nous de les contourner, d'amener de la largeur, nous latéraux, et un peu de profondeur aussi quand il y en avait besoin.
Alors c'est sûr, le résultat 2-0 était clair et net, et surtout l'équipe est donc première de son groupe. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Bleus, Karine, et aussi de cette innovation tactique pour Didier Deschamps qui fêtait sa centième sélection à sa manière finalement?
J'ai bien aimé le système. Je dis pas qu'il a bien fonctionné, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne parce qu'il a joué sur les qualités de son équipe. J'ai envie de voir ces latéraux qui ont l'habitude d'être très bons latéraux offensivement dans ce système-là. Et puis j'ai surtout aussi envie de voir un système avec deux attaquants et Griezmann derrière. Alors hier, je trouve que ça a pas fonctionné entre Giroud et Ben Yedder, mais j'espère que ça sera pas un one shot parce que par rapport aux spécificités des joueurs qu'on a dans cette équipe de France, ça peut être un système qui fonctionne bien. Là où je m'interroge, c'est pourquoi le faire lors du dixième match.
C'est ça. Parce qu'il n'y a plus grand chose à perdre. Étrange. Parce que c'est le moment peut-être. Il le refera sans doute en mars, mais
ben, j'espère.
C'est peut-être le match. Là, il n'y a plus grand chose à.
Quand même. Mais après, quand on entend Griezmann, qui est quand même une voix très importante dans le groupe, qui dit qu'il aime ce système et que c'est un système qui peut fonctionner selon les joueurs, effectivement, j'imagine que c'est pas juste un one shot. Mais je trouve que c'est un petit peu tardif d'avoir tenté ça. Mais l'idée m'a plu. La deuxième mi-temps était atroce. On s'est embêté comme des rats morts.
Bah ouais, il y a eu deux buts en première mi-temps et après plus rien.
Voilà. En Moldavie, face à la Moldavie, on s'est embêté tout le long du match.
C'est un système qui, de toute façon, mérite d'être travaillé, énormément travaillé. Et voilà, c'est pas au bout de 90 minutes que c'est un système qui aboutit. Donc c'est normal aussi.
Gilles?
J'entends dire de part et d'autre, à gauche et à droite, qu'on s'est embêté.
Parce que vous êtes entre Karine et Olivier, comme, je le précise.
Pas en première
comme
période, Gilles.
Mort, oui. Ou alors en autant contre la Moldavie.
Ah non, pas autant. Ah non, la Moldavie, c'était pire que tout.
Pire que, d'accord. Alors, l'ennui est une donnée variable et dont on peut discuter.
Subjective.
Vous êtes régalé, vous.
Mais régalé de bout en bout de ces éliminatoires. Contre la Moldavie, un aboutissement collectif. Contre l'Albanie, une première méthode de feu. Exactement, vous m'enlevez le mot de la bouche. Mais vous me connaissez. Avec des joueurs impliqués, avec un nouveau système. J'ai adoré. On est premier, nous voilà lancés vers un Euro triomphal. Mais je ne comprends
pas. Parce que moi, ça m'intéresse.
Je ne comprends pas ces petites ratiocinades là. Oui, alors voilà. Peut-être que quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus que d'être premier, d'être champion du monde et bientôt de gagner l'euro? Il faudra faire quoi? Dites-moi, expliquez-moi.
Non, mais moi personnellement, j'ai trouvé très bien que Didier Deschamps tente quelque chose d'autre. La France était sûre d'être qualifiée. Bon, le seul enjeu, c'était d'assurer définitivement la première place, mais si ça avait pas été fait, c'était pas un drame absolu. Donc c'est bien de le faire. On va pas se plaindre. On a souvent dit Deschamps est trop conservateur, il fait toujours pareil. Là, il a changé, c'est très bien. Je trouve que ça peut être un schéma qui a de l'avenir, surtout avec Mbappé à la place de Giroud. Peut-être, ou
vraisemblablement
avec quelqu'un qui court
ou
plus,
avec Giroud, Mbappé et pas
voilà,
Ben Yedder,
quelque chose comme ça, mais avec un joueur un peu plus qui aille dans les intervalles, qui court, qui décroche plus. Après, il y a quelques joueurs qui n'ont pas marqué des points sur ce match. Je pense notamment à Benjamin Mendy, qui avait l'occasion d'être au poste où il peut le mieux s'exprimer et qui ne l'a pas bien fait.
Ben Yedder non plus.
On va écouter Didier Deschamps évoquer effectivement ce plan B. Et ce plan B qui, à vous écouter, il y reviendra sans doute. Et on va expliquer pourquoi ou comment.
J'ai des joueurs intelligents et qui ont tous joué dans ce système-là, dans leur club. Donc ça nous a permis d'avoir la maîtrise, d'être solide et d'avoir une animation offensive de grande qualité parce qu'on aurait pu marquer plus de buts aussi. Donc en tous les cas, c'est intéressant.
Karine, ce nouveau schéma tactique, est-ce que il l'utilisera en fonction des adversaires dans une compétition? On se souvient que pendant la Coupe du Monde aussi, il essayait comme ça. Ou est-ce que c'était aussi en vertu des absents? Parce que rappelons-le, cette équipe de France, il n'y avait pas Pogba, en tout cas des champions du monde, ni Pogba, ni Matuidi, ni Lucas Hernandez.
Voilà.
Je pense pas que c'est sur le terrain.
Il y avait pas.
Je pense que c'est les deux en fait. À la fois parce que l'adversaire jouait avec un système à trois axiaux également en défense, et parce que, comme vous l'avez dit, il y avait énormément d'absents. Mais finalement, les absents en équipe de France, c'est quand même assez récurrent. Si on regarde Deschamps depuis la Coupe du Monde, il a jamais pu aligner deux fois la même équipe. Et là, surtout sur les derniers matchs, à chaque fois, il y avait quasiment une colonne vertébrale qui était absente.
Donc, je pense que c'est des joueurs importants.
Oui, à chaque fois, on avait soit Varane absent, soit Pogba absent, soit Mbappé absent, soit tous absents. Loris qui est pas là pour longtemps. Aussi quand même.
Titi qui est plus
là. Je pense que c'est un mix des deux. C'est à la fois le système de l'adversaire qui était un système
qu'il
à trois et à la fois des absents très importants. Donc c'était l'occasion de proposer autre chose. Et effectivement, il y en a qui ont gagné des points comme Léo Dubois ou comme Corentin Tolisso, même si le système n'a rien à voir avec Corentin Tolisso, mais il a été très bon hier. Et Benjamin Mendy, il joue gros parce que lorsqu'il a été repris par Deschamps, Deschamps lui avait quand même remis un petit coup de pelle en lui disant qu'il n'y avait pas que le terrain, il y avait aussi tout le travail
autour.
Et il était cuit, surtout en seconde période. Et
c'est inquiétant parce que
ce système juste a permis aussi, dans les trucs positifs, de revoir un super Griezmann. On l'avait pas vu aussi à l'aise depuis longtemps, et peut-être dans cette position-là, dans ce système-là, passeur, buteur, omniprésent, très bon pour aller dans le sens de Gilles du début à la fin.
Avec deux joueurs devant lui, effectivement, il a peut-être plus de latitude, il peut peut-être mieux, il a plus de choix, il est plus à l'aise pour orienter la manœuvre. Après, pour Mendy, c'est inquiétant pour lui, au-delà du match, parce que, rappelons-nous, avant l'Euro, quelques semaines avant l'Euro, il était encore numéro 1. Il s'est fait
avant
la Coupe du Monde, pardon. Il s'est fait doubler par Lucas Hernandez. Mm-hmm. Et maintenant, il est en balance avec Lucas Digne pour le poste de numéro 2. Il est plutôt derrière.
Oui, il est passé de titulaire à peut-être je fais pas l'Euro.
Peut-être numéro 3, donc je fais pas l'Euro. C'est assez inquiétant. Il a intérêt à se reprendre et à bien se reprendre.
À Manchester City aussi, hein. Il joue pas beaucoup en ce moment parce qu'il a été beaucoup blessé et il revient finalement.
Ça tourne pas dans le bon sens.
Gilles.
Après ce système avec trois défenseurs centraux, il y a peu d'évolution. A fortiori de révolution, mais dans le football aujourd'hui, et tactiquement, c'est quelque chose qui commence un peu à se développer, ce modèle de la défense à trois, et qui permet d'avoir des latéraux, des joueurs de couloir très haut, plus libres, pour casser les blocs très regroupés, très bas, et ça permet de jouer dans les intervalles. Alors on a vu les latéraux qui, notamment Dubois, parvenaient à s'infiltrer dans la défense albanaise, et Griezmann a joué entre les lignes, donc ça permet de casser les équilibres adverses. C'est pour ça qu'il y reviendra, mais c'est quand même pas son système préférentiel, parce que Deschamps, s'il avait voulu utiliser ce système-là, il l'aurait fait quand même depuis un moment. Donc c'est système B ou C.
Mais c'est bien d'en avoir, hein, déjà.
Ouais. Absolument. Oui, bien sûr.
Karine, deux attaquants de pointe, on le disait, donc Ben Yedder et Giroud. Kylian Mbappé, il était officiellement grippé. Vous y croyez ou c'était aussi une petite punition, un petit coup derrière la tête parce que Didier Deschamps n'aurait pas trop aimé son match contre la Moldavie?
Ah non, je le vois pas du tout comme une punition, surtout que Deschamps en plus l'a vraiment défendu devant les médias. Je le vois plutôt comme un joueur qui aurait peut-être chuté parce que le coup de « je suis malade », j'y crois pas du tout. Il sort du bus, il est avec la petite veste équipe de France. Si t'as 39 de fièvre, t'es déjà qualifié, tu restes au lit. Et il a passé le match il a passé le match sur le banc. Donc le coup de « je suis grippé à moitié en train de mourir sous la couette », j'y crois pas. Mais il y avait sûrement une
vous
petite alerte. Et
pour la blessure, rappelons-le, hein, voilà. Il revient de blessure, d'une longue blessure.
Et c'est logique dans ce cas-là, ça sert à rien de prendre des risques. Mais le coup de « j'ai 39 de fièvre », non, parce que hier on était notamment en plateau avec Régis Brouard et Jo Micou. Ils disaient si c'était un match pour se qualifier pour une Coupe du Monde, pour un Euro, etc., 39 de fièvre, tu peux jouer, si c'est qu'une histoire de fièvre. C'est ce qu'il disait en tout cas en plateau. Enfin, il n'avait pas l'air mourant, vous l'avez vu.
Non, hein, non, non.
Voilà. Non, non, mais 39 de fièvre, on meurt pas.
Mais oui, ce que je veux dire, c'est que, a priori, la fièvre est une bonne excuse à mes yeux. Je pense qu'il a eu une petite rechute et il faut mieux ne pas prendre
une rechute de sa blessure. Vous voulez dire plutôt.
Alerte.
Ouais. Alors, Ben Yedder, est-ce qu'il est grillé?
Il n'est pas grippé en tout cas, mais il est presque grillé.
Moi, j'adore ce joueur, mais la réalité, c'est que ses deux dernières titularisations face à la Turquie et face à l'Albanie ont été extrêmement décevantes. Lui-même, On le voyait sur son visage, il était extrêmement déçu.
Est-ce que c'est seulement à lui, finalement, à son débit, ou c'est aussi le système ce soir-là?
Mais en fait,
Système, c'était pas le même contre la Turquie. Les deux fois, il est
transparent. Je vais reciter Régis Boire, parce que hier, je trouvais que ce qu'il disait, c'était très intéressant. Il disait que Ben Yedder.
L'ancien entraîneur, hein,
entraîneur au Luxembourg actuellement. Mais il disait, en fait, que Ben Yedder avait joué avec Giroud, et Giroud pas du tout. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de ça hier, et les seules fois où ils ont combiné ensemble, c'était très loin du but. Bref, moi j'ai trouvé qu'on le trouvait pas sur le terrain, Ben Yedder, que limite il se cachait. Et il est parfait à deux normalement avec un Slimani, comme on peut le voir aujourd'hui à Monaco. Ça devrait fonctionner avec Giroud. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé hier, mais ça n'a jamais fonctionné.
Gilles. C'est le grand perdant du match d'hier, très franchement, parce que
c'est celui qui est le moins bien noté partout.
Bah, on l'attend, il ne vient pas. On le réattend, il ne vient toujours pas. À un moment, quand même, c'est un très grand joueur, mais il faut se poser la question de l'adaptabilité d'un joueur à l'équipe de France.
À un moment, Deschamps va appeler Moussa Dembélé.
C'est tellement le très très haut niveau. Qu'est-ce que vous passez à ce très très haut niveau? Là, je constate que factuellement, ça semble très difficile. Alors,
il reste deux matchs avant la liste. Hein,
oui, c'est compliqué. Non, mais il a de la chance que personne ne se détache totalement. Oui. C'est-à-dire qu'il est encore en course. Mais il a grillé des jokers.
Non, mais il a pour lui quand même une efficacité redoutable qui ne se dément pas même depuis son arrivée à Monaco, alors que Monaco a eu quand même des difficultés depuis le début. Mais c'est un joueur qui peut surtout jouer avec un deuxième attaquant à ses côtés. Or, le schéma à deux pointes, c'est pas le schéma préférentiel de Didier Deschamps. Et donc, c'est très dommage pour lui que hier, pour une fois que la France jouait avec deux pointes, enfin, deux joueurs devant un meneur de jeu, en gros.
Oui, puis
il y avait trois attaquants, mais deux pointes. Il n'est pas réussi à tirer son épingle du jeu.
Et on a beaucoup vu Giroud, en plus, points, malgré tout. Hein. Olivier Giroud a beaucoup tenté, même s'il a raté. Mais en tout cas...
Oui, parce que je crois qu'il n'y a aucune frappe au but hein, pour Ben Yedder.
Alors après, il y a du travail invisible, peut-être, qui dégage des espaces aussi pour Giroud. Il faut peut-être lui reconnaître ça. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on retiendra. On retiendra qu'il ne s'est pas montré. Quoi. Oui.
C'est peut-être qu'on avait déjà dit ça au moment de la Turquie.
Tu dis ça quand tu sens que ça sent le pâté.
Oui, bien sûr.
Passons aux champions d'Europe, les champions d'Europe en titre, et qui seront là.
Está Portugal, pode marcar. Gol! É o golo de Portugal, Bruno Fernandes, ao minuto 39. Ronaldo já a pedir, centro de Bernardo, vai ser golo de Jota ou de Ronaldo.
Está feito,
quem marca é golo e Portugal está no campeonato da Europa. 2-0 para Portugal para arrumar a questão.
Une victoire au Luxembourg pour les champions d'Europe en titre qui seront donc bien là pour défendre leur couronne acquise aux dépens des Français. Vous vous en souvenez, hein, cette finale de tous les hommes de Didier Deschamps.
Je vois pas du tout de quoi vous parlez.
N'est-ce pas?
En prolongation.
Ouais. Et grâce, ces deux victoires qu'ont remporté les Portugais dans ces deux derniers matchs, et il fallait quand même qu'ils gagnent pour finir premier de leur groupe, grâce à leur atout
décisif. Pour finir
décisif,
deuxième, hein, parce qu'ils sont derrière l'Ukraine.
Deuxième.
Pour maintenir le point d'avance qu'ils avaient sur la Serbie.
Voilà.
Hier, ça a été chaud. Hein. Ça
oui, il y a un moment, ils n'y étaient pas.
Oui, ils n'y étaient pas, mais la Serbie n'y était pas, malheureusement, parce qu'elle qui devait gagner, elle a été rattrapée.
L'Ukraine a égalisé dans le temps additionnel, et les Portugais n'ont fait la vraie différence qu'en toute fin de match.
En tout cas, l'atout décisif de Fernando Santos, c'est évidemment lui, et toujours lui. Depuis 2004, hein, je crois qu'il est là pour ce qui est des Euros, c'est Cristiano Ronaldo. Il aura inscrit 4 buts en 2 matchs, puisqu'il en a inscrit 3 contre la Lituanie à domicile, c'était une victoire 6-0. Et puis après, 1 contre le Luxembourg, le dernier, celui de la victoire. Mais le sélectionneur, vous allez l'entendre, placide Fernando Santos, il ne se surprend même plus des prouesses de son atout.
Beaucoup de gens parlent de Cristiano. Et c'est normal. Maintenant, malgré la gêne ressentie par le joueur, tout s'est bien passé et ça ne me surprend pas. D'ailleurs, je ne suis plus surpris par Cristiano. Je vous assure, même lorsqu'il marque un triplé en jouant moindri, il est décisif.
Alors, il aurait même peut-être aimé marquer un doublé hier, Cristiano Ronaldo, parce qu'il serait arrivé à 100 buts sous le maillot de la sélection. Il n'est qu'à 99.
Ça n'est pas si remis, à mon avis.
Oui, ça j'imagine. Ça sera bientôt fait. En tout cas, Cristiano Ronaldo, toujours la pièce maîtresse de l'équipe portugaise, ou depuis 2016, il y a quand même une évolution, Gilles?
Alors, ce sera, vous avez tout à fait raison, vous avez commencé par ça, ce sera son 5e Euro en 2020, c'est le record absolu.
2004, donc c'était chez lui, c'était au Portugal. Eux aussi avaient perdu en finale.
C'est fou cette longévité. Alors, il n'y a pas de révolution quand même, il y a des petits ajustements et il y a Cristiano Ronaldo comme pièce maîtresse. Voilà, c'est un bloc solide avec un éclair de génie. Ça leur suffit pour gagner quand même. Hein. Ils ont brillé à l'Euro, brillé Ligue des Nations. Ils n'arrêtent pas de briller dans les résultats. C'est pas un football. Les débats me rappellent parfois ceux autour de l'équipe de France. C'est pas un football qui, pour quelques puristes un peu surannés à l'analyse démodée, en reste à oui, c'est pas du football panache avec du grand spectacle. C'est du football qui gagne. Voilà, le Portugal et la France, c'est du football qui gagne. Et il y a un génie qui est Cristiano Ronaldo et qui va battre bientôt le record mondial du nombre de buts en sélection. Il en est plus très loin non plus.
Il a 10 buts.
10 buts, voilà.
Oui, je parle de par rapport à Ali Daei, il est 109 buts. Hein.
Absolument.
De l'Iranien Ali Daei, c'est 109, donc il a 10 buts.
Donc il bat tous les records.
Ça va motiver, hein, je pense.
Oui, mais c'est Gavi sur le fait qu'il battra ce record.
Je pense que le Portugal ira loin au prochain Euro.
Non mais alors la France va aller loin et va gagner. Donc en finale contre le Portugal, c'est la revanche.
Encore
2020, vous nous prédisez une revanche.
Dernier
de 2016.
Carré.
Ça sera à Wembley. Ah.
On peut quand même souligner l'émergence dans la durée de certains joueurs en plus de Ronaldo, parce que rappelons le premier but hier, l'ouverture, le coup d'œil et l'ouverture en profondeur de Bernardo Silva, le dosage
un
de la passe est somptueux.
Un des très bons joueurs de cette équipe. Hein.
Donc ça, c'est quand même pas rien non plus.
Sur
et d'ailleurs,
pourri,
sur ce but, même sur ce but, c'est Bruno Fernandes qui marque, mais Ronaldo est dessus et il fait une sorte d'écran. Il voit que son coéquipier est un petit peu mieux placé, il s'efface et je pense que ça donne un temps de retard au défenseur et l'autre a tout le temps de placer sa balle. Après, l'importance de Ronaldo apparaît clairement. Autant contre la Lituanie, il avait survolé les débats et mis un triplé. Hier, il fait pas un grand match, mais il est quand même sur les deux buts. Il est incontournable. Il est clinique. Et puis, il a une telle envie, même quand il fait un mauvais match, de ne pas finir avec un zéro but, zéro passe décisive, qu'il va toujours essayer jusqu'à la dernière minute d'alourdir ses statistiques, quoi. Donc, c'est une force énorme pour l'équipe, même s'il n'est plus aussi, il a plus un volume de jeu comme il avait il y a encore 5 ou 8 ans, quoi.
Il a évolué, comme on dit.
Évidemment.
Karine.
Il a vieilli aussi.
Donc,
mais
ça
il vieillit
une évolution.
Intelligemment, disons.
Oui. N'est-ce pas? On préfère le mot évolution, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Karine, le Portugal et Cristiano, toujours parmi vous aussi, allez, le dernier carré, comme dit Gilles?
Moi, je suis moins emballée que Gilles, hein, quand même. Alors après, on est habitué à ce que le Portugal vive des phases de qualification compliquées, comme nous aussi, très souvent.
Cette fois-ci, justement, ils passent pas par les barrages.
Oui. Et là,
j'ai vérifié en 2012
été...
et en 2014, ils avaient dû passer par les barrages.
C'est assez
là, quand même.
Habituel. Bon, après, il y a des pays qui se qualifient toujours très facilement, comme l'Angleterre, et hormis à la Coupe du Monde, qui se bananaient très vite. Donc, vous voyez, ça veut rien dire. Mais moi, je les mettrais pas dans le club des favoris. S'il faut avoir un club des favoris, je mettrais les Français, les Belges,
oui.
Je mettrais les Anglais dans la lignée de leur Coupe du Monde. Peut-être les Pays-Bas, même si on sait pas ce qu'ils vont faire en phase finale, parce que c'est toujours différent une phase finale et des qualifs. Donc voilà, les Portugais, je les mettrais quand même plutôt dans un deuxième groupe.
Avec l'Italie, par exemple.
Et l'Allemagne aussi.
Et l'Allemagne,
hein.
Bien sûr.
Oui,
et
l'Allemagne.
L'Italie est encore plus bas, moi, tu vois, quand même.
On y reviendra sur tous ces favoris. Mais j'aimerais vous faire écouter, eh bien, ces petits poussés de l'aventure prochaine que sera l'Euro 2020. C'est une autre équipe de Vikings. Alors, on se souvient, en 2016, le grand moment avait été, eh bien, l'accueil en France des Islandais, n'est-ce pas? Là, ils n'ont pas de clapping, en tout cas,
ils ont
je crois pas. Hein, ah, ils ont autre chose, vous allez nous raconter ça. Écoutez, si vous reconnaissez cette langue. C'est en quelle langue, Gilles?
Alors écoutez, je dirais que nous sommes entre les langues baltes et les langues purement scandinaves, donc je verrais bien la Finlande.
Allez, vous avez gagné.
C'est du finnois, en fait.
C'est du finnois, effectivement.
Vous m'avez aidé, Annie. Hein.
Et vous remarquez, quand on entend un petit peu, qu'il y a plus de voyelles que dans les langues scandinaves, puisque c'est le finnois fait partie de la famille des langues finno-ougriennes, comme le basque et le magyar.
Il est linguiste, voilà. Régulière.
Donc ça sonne pas pareil que du suédois ou du norvégien. Il y a plus de i, de a, enfin c'est un peu plus chantant.
Merci pour la leçon.
Voilà. Et il y a Pouki, non mais c'est vrai.
Y a Pouki,
alors racontez, c'est incroyable. Pouki, c'est leur buteur, eh oui, qui est également en réussite en première ligue avec Norwich, qui est promu.
C'est
Norwich
City. La chanteuse française là, Aya Nakamura.
Alors ça, non, j'ai pas cette info là. Celle-là, je l'ai pas.
Non, là je connais. Non, pas
du tout. Il avait été élu joueur du mois d'août en première ligue d'ailleurs.
Et Timo Pouki. Et il cartonne avec donc sa sélection finlandaise.
Et là, il a marqué encore.
Il n'arrête pas de marquer. Pouki, voilà, donc il est connu en France, enfin Pouki en France est connu pour la chanson, et puis dans le football c'est Pouki le joueur de Norwich. Régale,
décidément cet Euro 2020,
5 millions et demi d'habitants, leur sélectionneur s'appelle Marku ou Marku, je sais pas comment on dit là-bas. Marku. Vous savez peut-être
Marku comme l'ancien pilote de rallye Marku Allen.
Ah oui, d'accord. Ah, oui.
Alors, pilote Lancia des années 80.
Marku Kanerva, ouais. Il s'appelle leur sélectionneur. Il y a aussi un gardien, le gardien de but, hein, qui lui aussi évolue dans les sphères quand même élevées, puisqu'il joue au Bayer Leverkusen, club de première division allemande, et il s'agit de Luca Radecki. Je pense qu'on dit Radecki.
Lucas Radecki.
Ouais. Gilles.
Et ils ont un milieu de terrain aussi, Camara, qui joue au Glasgow Rangers. Ils ont un joueur de l'Impact Montréal. C'est une équipe qui attend, enfin, c'est un pays qui attendait ça depuis 1938. C'est-à-dire qu'ils étaient sevrés de phase finale. Ils avaient renoncé à tout.
Et ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde et effectivement, c'est leur première Euro.
Absolument. Et donc, d'un coup, là, comme ça, il y a eu une sorte de regain à partir de décembre 2017. Il y avait eu quelques bribes, quelques esquisses d'espoir et puis rien. Et puis là, ils ont commencé doucement. Alors, c'est un groupe qui n'était pas très difficile, mais ils ont réussi à être homogènes, à arracher cette qualification. Et franchement, ça suscite moins d'enthousiasme en Finlande. C'est une équipe, je suis pas linguiste moi, mais c'est une équipe qui crée moins le buzz et l'affect que l'Islande, parce que ils sont un peu plus rigoureux, c'est pas aussi chatoyant, etc. Mais c'est un bloc et qui a réussi à se qualifier. Je pense pas qu'il y aura du clapping, mais il y aura en tout cas un énorme effet d'attente, de curiosité.
L'Islande, la Finlande, ça fait partie de ces pays qui ont parfois un grand joueur, mais qui n'ont jamais l'équipe pour l'accompagner, lui permettre de jouer une phase finale de Coupe du Monde ou d'Euro. Et maintenant, avec l'élargissement...
Il y avait Litmanen, on se souvient de
voilà,
Litmanen.
Voilà, Yari Litmanen, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 96, l'année
magnifique joueur.
De l'Ajax. Joueur extraordinaire, je crois qu'il avait fait troisième du Ballon d'Or, si mes
Absolument.
Souvenirs sont bons. Et il n'avait pas à l'époque, le plateau était trop étroit, il y avait que 16 équipes, et il n'avait pas les joueurs pour l'accompagner. Et maintenant c'est le cas. C'était pareil pour le Pays de Galles qui avait enfin pu jouer l'Euro avec Gareth Bale,
Exactement.
Alors qu'à l'époque de Ryan Giggs il n'avait pas pu. Et le Pays de Galles avait fait un superbe Euro, puisqu'on se rappelle de l'Islande, mais le Pays de Galles dans le jeu était peut-être plus intéressant. Et on peut peut-être penser que la Finlande, avec l'euphorie de cette première qualification, peut créer jusqu'à un certain point la surprise, puisqu'il y a les quatre meilleurs troisièmes qui seront en huitième de finale.
Ouais, ce qui est intéressant.
Juste pour dire comment ils se sont qualifiés, il faut juste rappeler qu'ils sont dans le groupe de l'Italie, que l'Italie a totalement survolé avec 9 victoires en 9 matchs.
Exactement.
Derrière, il y avait la Grèce qui est très 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 loin de son lustre d'antan,
de 2004.
Arménie, Bosnie-Herzégovine, Liechtenstein.
Bosnie,
donc, au pays des aveugles,
équipe.
Les bords du son roi. La Finlande sort deuxième d'un groupe.
Olivier, la Bosnie, si vous regardez les joueurs qui composent l'équipe.
Oui, mais ça fait pas une équipe.
Oui, mais il y a quand même plus de joueurs.
Enfin, c'était l'occasion que jamais, là, quand même.
Côté qu'en Finlande.
Parce que moi, j'ai regardé Bosnie-Italie. Bon, alors évidemment, les Bosniaques. Oui, les Bosniaques étaient éliminés avant le coup. Les Bosniens, bon. Les joueurs de la Bosnie, voilà. Les joueurs de la Bosnie étaient éliminés avant le match, donc ça a fini en 3-0, je crois. Mais il y avait absolument rien en face. Il y avait une
Italie qui était sur le déclin. Mais il y a quand même encore des joueurs.
Ce qui est amusant, c'est que certaines équipes, quand elles participent pour la première fois, il y a une dynamique comme ça.
Voilà.
On se souvient donc de l'Islande en 2016 qui va jusqu'en quart de finale et qui est éliminée par la France. On se souvient de Madagascar
à la
Cannes qui, pareil, va jusqu'en quart de finale. Donc c'est les épopées finalement qui nous amusent. C'était la 11e nation qualifiée. Alors, Olivier, vous voulez donner la liste ou...
Il y en a 17 hein, maintenant. Eux, c'était à l'époque.
11e,
c'était
exact.
Maintenant, on en est à 17. Le Portugal, hier, était le 17e
exact.
Pays officiellement qualifié.
En tout cas, les principaux seront là. Et on y reviendra dans Radio Foot International.
Là
puisqu'il
encore,
y a
vous,
encore.
Vous revenez sur tout, alors.
Eh ben, parce que c'est déjà fini,
ah,
Olivier.
Ça passe vite.
C'est ça le problème, hein. C'est qu'on n'a pas le temps de tout dire.
Ah oui, puis c'est bien 59 que ça se termine. Il ne faut pas se faire
avoir,
comme certains la semaine dernière.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission avec Marie-Amélie Mott à la réalisation. Il y avait aujourd'hui Steven Elsie. Et on se retrouve, eh bien, demain. Merci à tous.